Il est tout juste 18h à Washington, 2h du matin à Moscou et c'est Radio France Internationale que vous écoutez. L'actualité du monde en 10 minutes sur la radio du monde. Mathis Slimano, bonsoir mon cher Mathis.
Et bonsoir mon cher Zéphirin Quadio. Les titres de l'actualité internationale, c'est cet appel au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Coup de fil de plus de 2 heures sur la guerre en Ukraine. Kiev et Moscou devraient commencer des négociations en vue d'un cessez-le-feu d'après le président américain. Des pourparlers coordonnés étroitement entre Européens et Américains, dit Berlin. La guerre qui n'en finit pas à Gaza. L'opération terrestre chariot de Gédéon lancée par Israël vise à prendre le contrôle de l'enclave d'après le Premier ministre Netanyahou. Une poignée de camions d'aide humanitaire est entrée à Gaza ce lundi. Les Nations Unies parlent d'une goutte d'eau dans l'océan. Et puis en Pologne, résultat en demi-teinte pour le camp pro-européen. Le maire de Varsovie qualifié pour le second tour de la présidentielle dans un mouchoir de poche avec le candidat conservateur.
RFI.
De président à président, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont appelés pendant plus de 2 heures. Troisième coup de fil officiel de la sorte entre les deux dirigeants. Outre l'annonce de négociations immédiates entre Russes et Ukrainiens, Anis El-Jabri, le tempo diplomatique ne semble pas pour autant s'accélérer pour mettre fin à la guerre.
Pas de changement dans la position de fond du Kremlin. La pression ici est toujours mise sur l'Ukraine. Travailler sur un cessez-le-feu et des négociations de paix, oui, dit la Russie, mais cela dans le cadre qu'elle souhaite. Celui d'Istanbul, celui des pourparlers de 2022 qui avaient échoué. Vladimir Poutine a aussi redit ce qu'il avait encore dit dimanche, c'est-à-dire, je cite, que pour lui, l'essentiel est d'éliminer les causes profondes de la crise. Autrement dit, il ne renonce à aucun de ses objectifs. De plus, selon le compte-rendu fait par le Sherpa diplomatique du Kremlin, aucun calendrier n'a été convenu entre les deux chefs d'État pour l'obtention de ce cessez-le-feu. Autre volet à cette conversation, et il est très important aux yeux du Kremlin, c'est la relation avec Washington, et là-dessus, le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine a beaucoup insisté sur la chaleur du climat qui s'installe. Les deux chefs d'État s'appellent, dit-il désormais, par leur prénom et aucun des deux ne voulait raccrocher en premier. Vladimir Poutine et Donald Trump ont même évoqué, selon le Kremlin, une normalisation de la relation États-Unis-Russie. Anis El-Jabri, Moscou, RFI.
Les négociations entre Russes et Ukrainiens qui pourraient se tenir au Vatican, c'est en tout cas la proposition du pape Léon 14, salué par l'Ukraine et ses alliés. De son côté, Kiev se dit prêt à étudier l'offre de la Russie sur un mémorandum concernant un possible traité de paix. Pour leur part, les Européens disent préparer de nouvelles sanctions contre Moscou, moyen de pression pour aboutir à un arrêt des combats. Déclarée organisation indésirable par la Russie, Amnesty International promet de continuer son travail dans le pays malgré l'interdiction donc de toutes les activités de l'ONG, et ce dans un contexte de répression de la société civile russe et de toute voix critique depuis le début de la guerre en Ukraine. Israël va prendre le contrôle de tout le territoire de la bande de Gaza, annonce du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au lendemain du lancement de l'opération chariot de Gédéon. Dimanche, les chars de l'armée israélienne ont pénétré dans l'enclave, renforçant ainsi l'inquiétude des Gazaouis déjà livrés à eux-mêmes après 19 mois de guerre et une aide humanitaire qui reste bloquée aux portes de l'enclave. Heike Schmidt a joint le docteur Mohamed Abou Raya. Il travaille dans l'un des derniers hôpitaux opérationnels à Deir el-Bala.
Nous l'entendons aux informations, mais à vrai dire, nous ne savons rien de ce qui se passe sur le terrain, parce que personne n'a accès au territoire contrôlé par Israël. Celui qui y va risque sa vie. Notre situation s'aggrave de jour en jour. Nos deux options sont soit de souffrir de la faim, soit de mourir. Rester en vie à Gaza est de toute façon juste une question de chance. Nous sommes affamés et même l'eau potable n'est plus disponible. Donc, les informations sur l'offensive terrestre, cela sonne bizarre pour nous, c'est presque inimaginable, car pendant ce temps, les négociations pour un cessez-le-feu continuent au Qatar. Que ce soit le Hamas ou Israël, les deux jouent leur jeu politique. Et qui paye le prix fort? Ce sont les civils. On essaye de nous pousser du nord vers le sud. Nous sommes assiégés et traités non pas comme des êtres humains, mais comme des animaux. La communauté internationale, en nous regardant, devrait avoir honte.
Justement, dans une déclaration commune, une vingtaine de pays dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni tentent de mettre la pression sur Israël. Ils exigent la reprise complète et immédiate de l'aide à Gaza et affirment qu'ils ne resteront pas les bras croisés face aux actions scandaleuses du gouvernement Netanyahou. Le Premier ministre israélien qui réagit, cette condamnation est une immense récompense pour le Hamas. Ce lundi, au moins 90 personnes sont mortes dans la bande de Gaza. Par ailleurs, les Houthis du Yémen soutiennent soutien indéfectible du Hamas menace le port de Haïfa, principal port d'Israël, de blocus naval. Tous les navires transitant par Haïfa sont désormais inclus dans notre liste de cibles, a précisé le porte-parole des Houthis.
RFI.
Il est 1h05 à Paris et à Varsovie. C'est un second tour de la présidentielle très serré qui s'annonce en Pologne. Sont qualifiés le conservateur du PiS, Karol Nawrocki, arrivé en deuxième position avec 29% des voix, et le candidat libéral et pro-européen maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, en tête, mais seulement avec 31%. Pas de temps à perdre. La campagne de l'entre-deux-tours a donc débuté ce lundi et elle s'annonce extrêmement tendue, avec parmi les enjeux la place de la Pologne dans l'Union européenne. Daniel Valo est à Varsovie pour RFI.
D'un côté, il y a Karol Nawrocki, le candidat du PiS, profondément eurosceptique, hostile à ce qu'il dénonce comme étant les élites européennes qui voudraient imposer leurs valeurs progressistes à la Pologne, qui voudraient lui imposer également une immigration hors de contrôle. De l'autre côté, il y a le candidat du camp libéral, le maire de Varsovie, qui se veut au contraire profondément pro-européen. Et c'est un argument que Rafał Trzaskowski va sans doute brandir durant cette campagne de l'entre-deux-tours, en présentant le PiS comme le parti qui va éloigner la Pologne de Bruxelles. Le pari pour le maire de Varsovie sera donc similaire à celui qui a réussi en Roumanie pour le maire de Bucarest, vainqueur de l'élection présidentielle face à un candidat d'extrême droite qui était résolument hostile à Bruxelles. Nous saurons dans 2 semaines si en Pologne, comme en Roumanie, cette stratégie pro-européenne sera couronné de succès. Daniel Valo, Varsovie RFI.
Le second tour déjà joué en Roumanie. Victoire du candidat pro-européen Nico Jourdan avec près de 54% des suffrages face à son rival nationaliste George Simion. Pas d'état de grâce pour le camp pro-européen, mais tout de même un soulagement. La victoire de Nico Jourdan a été saluée par plusieurs dirigeants européens, d'Emmanuel Macron à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les dirigeants européens et britanniques saluent un nouveau chapitre après la signature d'un accord 5 ans après le Brexit. Il contient des volets sur les frontières, le commerce, la pêche, mais aussi la défense. Le Royaume-Uni pourrait ainsi rejoindre prochainement le programme européen d'achat d'armement, un programme à 150 milliards d'euros. Venons-en à présent à cette question. Recycle-t-on assez? Alors que la consommation de matières premières ne cesse d'augmenter, un rapport du cercle de réflexion Circle Economy pointe un recyclage insuffisant sur les 100 milliards de tonnes de matières utilisées chaque année. Moins de 7% viennent de produits réutilisés. Un chiffre, Simon Rosé, qui ne cesse de baisser.
L'humanité est un ventre qui ne cesse d'engloutir toujours plus de matières premières. 106 milliards de tonnes l'an dernier, parmi lesquelles 7 seulement proviennent de matériaux recyclés. Certes, ces derniers sont en progression constante, mais comme dans le même temps la voracité de nos sociétés augmente encore plus fortement, la proportion des matériaux recyclés dans le total de ceux utilisés diminue. 2024 a illustré cette tendance pour la 8e année consécutive, et ce phénomène est appelé à s'amplifier. Selon les projections des auteurs, dans 30 ans, ce ne seront pas 100 milliards de tonnes de matériaux, mais 160 milliards qui seront consommés chaque année, avec de graves disparités sur la planète. États-Unis et Union européenne captent aujourd'hui à eux seuls plus de la moitié des matières premières mondiales, alors que les deux blocs ne représentent que 10% de la population. Le problème est donc systémique, concluent les auteurs, qui déplorent un manque de cadre mondial contre ce gaspillage généralisé. Pour y remédier, ils appellent ainsi à la création d'une agence internationale des matériaux, sur le modèle de l'Agence internationale de l'énergie, afin de guider les gouvernements dans la mise en place d'une économie réellement circulaire.
Simon Rosé, service environnement climat de RFI. L'État français a délibérément dissimulé ce qui est devenu le scandale des eaux minérales. C'est la conclusion du rapport d'une commission d'enquête sénatoriale. Un scandale d'abord révélé par la presse sur des traitements illicites d'eau en bouteille qui éclabousse notamment le géant agroalimentaire Nestlé Waters. Retour à la normale à l'aéroport parisien d'Orly. Une panne au niveau du contrôle aérien avait largement perturbé les départs et arrivées de milliers de voyageurs tout au long du week-end. Près de la moitié des vols annulés pour la seule journée de dimanche. La Direction Générale de l'Aviation Civile prévoit un retour complet à la normale dès ce mardi. Et puis, surprise au Festival de Cannes, une palme d'or d'honneur décernée à l'acteur américain Denzel Washington. Un titre qui vient récompenser l'ensemble de sa carrière, la carrière de celui qui a percé l'écran dans Malcolm X ou encore Philadelphia. Denzel Washington est à Cannes pour I East to the West, le nouveau film hors compétition de Spike Lee.